Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous sur France Culture, une émission conçue pour scruter les grands sujets relatifs aux enjeux de l'environnement, mais aussi en seconde partie d'émission, une plongée dans les échos de la Terre, des histoires de terrain à côté de chez nous ou au bout du monde. Et aujourd'hui, c'est le dossier du nucléaire que nous avons choisi d'ouvrir en première partie d'émission, et plus précisément, celui de la gestion des déchets nucléaires. Un sujet sensible, voire houleux, qui secoue régulièrement le monde médiatique, avec notamment le projet d'enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure, entre la Meuse et la Haute-Marne, dans un contexte de discussion sur l'avenir de la filière nucléaire française. Aucun pays au monde ne semble avoir trouvé de solution dite idéale pour régler cette question cruciale. De quels déchets parle-t-on? Quelle est la dangerosité de ces déchets? Comment les gère-t-on aujourd'hui et pour le futur? Quels sont les risques pour l'homme et l'environnement? Quels choix la France fait-elle en matière de politique énergétique pour demain, dans un monde en plein questionnement quant à la transition énergétique? Autant de questions que nous aborderons avec nos invités. Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé. Elle est présidente du Parti écologiste Cap 21 et auteure notamment de l'Atlas mondial du nucléaire, paru chez Autrement, et du livre L'État nucléaire, paru chez Albin Michel. Avec nous également Monique Senet, physicienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, présidente du groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, et elle est co-auteure du livre Les dossiers noirs du nucléaire français, livre paru aux presses de la Cité. Patrice Torres, directeur des opérations industrielles de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Et à ses côtés, Francis Sorin, conseiller de la Société française d'énergie nucléaire, auteur de « Déchets nucléaires, où est le problème ?», un livre paru chez EDP Sciences en 2015. Et Francis Sorin est également membre honoraire du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 16h45, les échos de la Terre nous entraîneront dans le monde de la nuit, avec cette question qui suscite l'intérêt de chercheurs et de spécialistes. Quels effets les pollutions lumineuses ont-elles sur le monde animal? Réponse tout à l'heure avec l'ornithologue Philippe Ciblé. Il est directeur du service patrimoine naturel au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mais tout de suite, nucléaire. Cacher ces déchets que je ne saurais voir.
D'après les premiers résultats de l'enquête, et c'est ce qui inquiète le plus les Américains, l'accident survenu serait le résultat d'une mauvaise manipulation. C'est en effet l'un des ingénieurs qui a pris la décision d'évacuer de la vapeur de la centrale dans l'atmosphère sans savoir que celle-ci était contaminée. Tous les experts affirment que la population ne craint rien dans la mesure où le cœur du réacteur n'a pas été endommagé et que les traces de radioactivité dans l'atmosphère ne représentent pas un élément dangereux. C'est en fait un des bâtiments de l'usine qui est complètement contaminé. L'émotion est grande dans la région de Harrisburg car depuis le début, cette centrale pose de gros problèmes. Ouvert il y a 3 mois, le réacteur de Three Miles Island a déjà dû être arrêté à 4 reprises pour des raisons de sécurité. Les riverains considèrent donc maintenant que la centrale doit être fermée définitivement, la firme Edison s'y oppose. Enfin, il faut noter que cet incident survient au même moment où un film, Le syndrome chinois, avec Jane Fonda, retraçant le même type d'événement, connaît un succès prodigieux aux États-Unis. Film qui ne donne le beau rôle ni à l'industrie nucléaire, ni aux autorités.
Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour.
Bonjour Monique Senet.
Bonjour.
Bonjour Patrice Torres.
Bonjour.
Et bonjour Francis Sorin.
Bonjour.
Je vous ai vu écouter attentivement ce document sonore que nous avons retrouvé dans les fonds de l'INA. Et vous avez les uns les autres à un moment réagi effectivement. Il s'agissait de la catastrophe de Three Mile Island. Et c'était un document passé sur France Inter le 29 mars 1979. Il s'agissait de la voix de Denis Poncé depuis Washington. Un grand moment. En tout cas, dans cette aventure nucléaire, on peut le dire, qui marque un temps. L'homme a découvert une source d'énergie formidable au début du XXe siècle et puis a en même temps créé une sorte de monstre quand même qu'il lui faut canaliser depuis les années 50. Alors peut-être une réaction d'abord à ce document, Corinne Lepage.
C'est le premier qui était connu. Parce qu'il y en avait déjà eu en URSS, sauf qu'on ne le savait pas. Et puis on en avait eu un petit en France quand même en 68, à Saint-Laurent-des-Eaux, dont on ne s'était pas trop glorifié, qui aurait pu être très sérieux. On n'est pas passé vraiment loin du coup près. Voilà, mais c'était la première fois que, publiquement, on en parlait.
Francis Thorin.
Three Mile Island, c'est l'accident le plus grave qui peut survenir sur un réacteur nucléaire de type à eau sous pression. Un réacteur à eau sous pression que nous avons également en France et qui équipe majoritairement les centrales américaines. C'est l'accident le plus grave. Il y a eu une fusion du cœur. Mais si vous regardez les conséquences de l'accident, le dispositif de protection du réacteur, c'est-à-dire l'enceinte de confinement, a bien joué son rôle. Et finalement, il n'y a pas eu de dégâts, ni dégâts sanitaires, ni dégâts dans l'environnement. Donc,
c'est pas tout à fait vrai.
Monique Sennet.
Ben oui, parce qu'il y a quand même...
C'est vraiment minime.
Il y a eu quand même un dégagement d'iode, et ça a quand même perturbé quelques thyroïdes. Ceci dit, comme accident, il a quand même montré, disons, la fragilité d'un certain nombre de problèmes, en ce sens que on a dû revoir les salles de commande. Parce qu'effectivement, il y avait des problèmes dans les salles de commande. Par exemple, on faisait arriver sur la même commande plusieurs choses. Et en particulier... C'était souvent, quand on appuyait sur quelque chose, ça disait qu'on avait fait quelque chose, mais pas si c'était réussi de l'autre côté. Pas là, le côté qui était... Et ça, ça explique beaucoup de choses. Et ça a été repris. Hein. Mais je veux dire, en 79, ça a conduit... Alors, parce que, évidemment, ça n'a pas été trop grave pour nous, mais il y a quand même eu une explosion hydrogène, ce qui a montré certains problèmes. Mais surtout, le réacteur, il était fichu. Et ça n'a jamais redémarré. Voilà. Pas son petit copain, mais
Free My Island. Patrice Thorin.
Oui, ce rappel est important, mais pour l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il est évident que nous, le débat du pour ou contre nucléaire ou de quel type ou autre, c'est pas du tout notre sujet. Notre sujet, c'est que faire des déchets, alors je précise, radioactifs plus largement que nucléaires d'ailleurs.
Mais il y a eu des déchets à Three Mile Island qu'il a fallu effectivement traiter et savoir où les mettre. Et ça, ça a pris un temps assez impressionnant.
Bien sûr, Madame Séné, mais qu'une installation soit en exploitation ou qu'elle ait à faire face à les événements, il y a de toute manière des déchets à prendre en charge. Donc il ne faut pas laisser imaginer que les déchets ne sont produits que quand il y a des événements ou des accidents. Le fonctionnement normal d'une installation nucléaire génère des déchets.
C'est un peu plus compliqué dans un cas comme celui-là, parce que là, vous n'avez pas vos déchets bien emballés dans leur petite caisse, avec le plomb et tout ce qu'il faut. Vous avez des trucs
mais
qui sont
tout ce qu'on a voulu bourrés, dire,
de, prenez bourrés pas, de radioactivité.
C'est ni pour ni contre.
On est bien d'accord.
On sent que le débat est lancé. En tout cas, ce document sonore que nous avons fait écouter d'emblée est aussi là pour replacer un petit peu les choses, c'est-à-dire au moins donner aussi un état des lieux géographiques. Le nucléaire est présent sur l'ensemble de la planète, on peut le dire. L'Europe est la zone la plus nucléarisée au monde.
Grâce
et
à nous.
Dans cette Europe, la France en est la locomotive. Ça, on peut le dire, personne ne conteste.
Il y a 58 réacteurs, voilà.
C'est plus de 10% du cheptel global.
C'est 75% de l'électricité française.
Francis Thorin, oui. Alors, dans ce tableau-là, donc, le nucléaire civil produit de l'électricité qui ne représente que 18% environ de l'énergie consommée dans le monde. Et 5 pays produisent les 2/3 de l'électricité nucléaire dans le monde, les États-Unis, la France, la Russie, la Corée du Sud et la Chine. Et donc, du même coup, et j'en arrive aux déchets, Patrice Thorez, eh ben, il y a ces déchets qu'il faut gérer. Alors, on va tout de suite écouter juste un deuxième document sonore. Le 27 avril 1985, c'était à l'occasion d'une réunion d'experts des pays d'Europe sur le thème du devenir des déchets nucléaires. Propos du directeur général de la recherche et du développement de la Commission européenne, Jean-Albert Dinkelspieler.
En fait, il s'agit de creuser une cavité ou d'utiliser une cavité existante, d'entreposer des déchets radioactifs, pré-traités et incorporés dans du verre. Et on fait des mesures pour voir si la radioactivité reste confinée dans le site ou si elle se propage. Autrement dit, si la bouteille est étanche. Il va y avoir 3 sites choisis dans des formations géologiques de nature rocheuse différente pour diversifier la démonstration.
Est-ce qu'il y aura un tel site en France ?
Il y aura un tel site en France, oui.
Et où ça ?
Le gouvernement français est en train d'y réfléchir, mais ce n'est pas encore décidé.
C'était en avril 1985, il y a un peu plus de 30 ans. Patrice Thorez, est-ce que vous savez à quel site, justement, en France, il est fait allusion ?
Je peux avoir une idée, j'imagine, même si à cette époque-là, comme ça a été dit dans le document, la France y réfléchissait.
Oui.
La France y réfléchissait et les géologues, en 1980 justement, venaient de dire « Il n'est pas question d'utiliser les anciennes mines parce qu'elles sont fracturées par le fait qu'on a extrait le minerai. » Et donc, elle ne serait pas... Oui, et le sel aussi, mais je veux dire...
Oui, le sel d'ailleurs, tentative en Allemagne, d'enfouir les déchets.
C'était une ancienne mine, et maintenant, c'est un désastre.
On se rejoint totalement sur ce point, effectivement, parce que ce que l'Andra met en avant depuis toujours, c'est qu'il est très important de dédier des outils qui seront étudiés et qui seront dédiés exclusivement à la gestion des déchets radioactifs et de ne pas réutiliser d'anciennes installations, mines ou autres, pour gérer les déchets radioactifs.
Alors justement, pour bien éclairer nos auditeurs, de quels déchets parle-t-on ? Il y a 5 catégories de déchets. Patrice Torres.
Oui, donc quand on parle des déchets radioactifs, il faut de suite rappeler qu'effectivement, le plus gros des volumes est produit par l'activité électronucléaire. Ça, c'est une certitude. Généralement, on classe les déchets radioactifs par rapport à 2 critères. Leur puissance radioactive, et donc on va entendre parler de déchets de très faible activité, et à l'opposé de déchets de haute activité, et également par rapport à la durée de vie des déchets, mais en fait à la durée de vie des radioéléments qui les composent, et même, pour être plus précis, on parle de demi-vie, en fait, ou de période des radioéléments qui les composent. Et là, on parle de vie soit très courte, c'est les déchets qui peuvent être gérés en décroissance, c'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, par exemple, ils ne seront plus radioactifs, et donc on peut gérer ces déchets-là dans le monde conventionnel. On en retrouve principalement dans la médecine ou dans certains laboratoires de recherche. Ensuite, pour les déchets qui nécessitent une solution de gestion long terme et définitive, on va parler des déchets à vie courte, lorsqu'ils sont composés principalement de radioéléments de période inférieure à 31 ans, et au-delà, on parlera de vie longue. Ce qu'il faut également préciser, c'est que pour près de 90% des volumes de déchets radioactifs, mais qui ne représentent que 1% de l'activité radiologique, les solutions de gestion sûres existent déjà, et l'ANDRA exploite en fait des centres de stockage qui permettent d'offrir une solution sûre pour l'environnement et les générations actuelles, mais également pour l'environnement et les générations futures. Par contre, pour 4% du volume de ces déchets, mais qui représentent près de 99% de la radioactivité, nous n'avons pas encore disponible la solution de gestion définitive. C'est une solution sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Et puis le petit rappel sonore que vous nous avez fait, le prouve, puisque nous étions dans les années 80. Donc c'est une solution de gestion sur laquelle nous travaillons et qui arrivera, si nous y sommes autorisés et si le législateur le décide et le valide, à la mise en exploitation de ce qu'on appelle CIGEO, pour le Centre d'industrie géologique, qui permettra de gérer ces déchets les plus actifs, pour faire très simple, les déchets radioactifs les plus dangereux.
Francis Sorin.
Oui, tout à fait. On peut être frappé quand on évoque la question des déchets par le décalage vertigineux qui existe entre la manière dont nos compatriotes se représentent ce problème, en général de manière assez catastrophiste, de manière assez alarmiste, et la manière dont les scientifiques et les spécialistes, les techniciens, traitent de cette question et estiment que ces déchets peuvent être gérés dans des conditions de sûreté acceptables. Il y a un énorme décalage entre ce que pense l'opinion et la réalité du dossier que travaillent les ingénieurs et les scientifiques.
En même temps, historiquement, c'est vrai qu'il y a eu quelques bonnes raisons pour l'opinion publique de s'inquiéter quand même. Bon, là, on entendait le son de Free My Island en 1979, il y a eu Tchernobyl en 86, en 2011, Fukushima. C'est vrai que les populations se rendent compte aussi de la nocivité, parce que là, bien évidemment, on sera tous d'accord autour de cette table, la nocivité de la radioactivité, elle n'est pas niée, et c'est justement cette question qui est du traitement de ces déchets et de la sécurité des installations.
Monique, c'est pas seulement ça. Il y a eu la première loi nucléaire en 91 qui justement demandait une recherche sur plusieurs thèmes et surtout disait que si le laboratoire était choisi, les personnes autour pourraient éventuellement revenir sur ce choix. C'est-à-dire ils seraient consultés. Et ça donnait un rendez-vous pour dans 15 ans. Effectivement, le rendez-vous a eu lieu, etc., avec des essais qui avaient été faits, et bien dans un seul laboratoire, parce qu'on n'a pas réussi à mettre un autre laboratoire. Et donc, dans ces conditions-là, c'est un peu normal qu'il y ait un certain nombre de gens qui ne sont pas très contents, parce que pour eux, on leur impose quelque chose.
Corinne Lepage, et ensuite François Sorin.
La première, il faut comprendre que c'est probablement la première technologie qui a fait l'impasse sur un problème majeur de cette technologie et qui l'a lancé avant d'avoir résolu son problème. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il y avait un problème avec les déchets quand on a commencé avec le nucléaire civil.
Mais on a cru qu'on était capable.
Mais on a dit, on saura
faire. En marchant, les scientifiques trouveraient.
Voilà, on n'a pas trouvé. C'est 40 ans plus tard et on n'a toujours pas trouvé. Ça, c'est le premier point.
On a trouvé des solutions de gestion. Après, on peut ne pas être d'accord sur la manière de les gérer, mais on propose des solutions.
Oui, j'entends bien, mais même si vous pensez à Soulaine, par exemple, et donc aux déchets faiblement radioactifs, Soulaine a posé des problèmes, puisque vous savez comme moi que c'était une installation qui devait être totalement inerte, sans aucun problème. On l'a transformée en installation nucléaire de base. Parce qu'il y a eu des fuites de tritium et on ne savait pas d'où elles venaient.
Madame Lepage, sur ce site-là, je vais pouvoir vous en parler très facilement, puisque en plus d'être directeur des opérations industrielles de l'Andra, je dirige le centre de stockage de Soulaine depuis près de 10 ans. Donc je ne peux pas vous laisser dire que le site devait être conçu et être inerte. Il a toujours été...
Non.
Bien sûr que si. Et quand on a été autorisé à exploiter ce site-là, il était réputé sans rejet, puisque la législation du moment fixait que si vous aviez des rejets inférieurs à une limite donnée, vous étiez réputé sans rejet et vous ne deviez pas bénéficier d'une autorisation de rejet. La loi, et donc il a ouvert en 92, la loi a évolué, et en 2005, il était obligatoire d'avoir une autorisation
parce
de
qu'il y avait
rejet
des fuites de tritium.
Pour ce site. Mais pas du tout des fuites.
Bien sûr que
c'est
si.
Pour les rejets encheminés, pour les rejets liquides. Donc on a une autorisation de rejet sur ce centre depuis cette date.
Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je connais très bien ce dossier. Il y a eu des fuites de tritium, on ne savait pas d'où elles venaient, c'est pour ça qu'il y a eu une autorisation.
Corinne Lepage.
Il y avait un deuxième point dans la ligne de ce que disait Mme Séné. C'est très important. La loi de 91, elle disait on propose trois solutions. Une solution qui était Creys-Malville. C'est-à-dire, on allait réutiliser Creys-Malville pour en faire, pour parler simple et sous le contrôle des scientifiques que je ne suis pas, un incinérateur à déchets nucléaires, globalement. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir, finalement, traiter les déchets nucléaires ou tout au moins essayer de le faire. Il y avait,
c'était pas spécialement Superphénix.
C'était
la mutation, enfin, transmutation.
La transmutation. Ensuite, il y avait une deuxième solution qui était le stockage en subsurface. C'est-à-dire, on stocke les déchets juste sous la terre de manière à pouvoir les contrôler et en attendant d'avoir une solution. Et puis, il y avait une troisième solution qui était effectivement le laboratoire et qui devait concerner trois sites. Bon. Le fait est que, à la fin de l'histoire, on se retrouve en 2016 ou 2015 ou 2014 avec une seule solution, le laboratoire, et avec un seul lieu, c'est Bure.
L'objectif du débat public qui s'est tenu en 2005, donc 15 ans après cette date-là, visait à mettre sur la table et auprès du grand public, mais également des spécialistes, les résultats de la recherche pour les trois pistes. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, en conclusion, l'autorité de sûreté nucléaire a exprimé le fait que seule la solution de stockage en couche géologique profonde permettrait de garantir une solution sûre et durable et qui ne nécessiterait plus l'intervention de l'homme, contrairement à l'entreposage, puisqu'on pouvait effectivement entreposer les déchets, mais il fallait, au fur et à mesure, reconstruire. Quant au fait d'avoir trois laboratoires, il a toujours été acté sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui nécessitent un débat, de la concertation avec les gens qui habitent sur les territoires, qu'il ne s'agissait pas d'imposer à des gens qui ne le souhaitaient pas un laboratoire pour faire de la recherche sur une solution de gestion de déchets radioactifs s'ils ne la souhaitaient pas. Donc, in fine, il a été décidé d'implanter un laboratoire là où il y avait un consensus et une acceptation pour ce laboratoire, mais 25
pour
ans
un
après...
Laboratoire.
Et j'y viens, et pour un laboratoire. Mais 25 ans après,
chose.
Ce qui est important, c'est quand même qu'on ait pu, grâce à ce laboratoire, de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas encore autre chose, c'est un laboratoire, acquérir suffisamment...
Ça prend une autre tournure quand même.
Mais ça ne sera pas dans le laboratoire, mais j'y viens, parce qu'il faut terminer
non,
quand même.
Allez-y, allez-y.
C'est un sujet qui, sur le plan de la démocratie, de la concertation, a fait l'objet de trois lois, de deux débats publics, qui a fait l'objet également de nombreuses enquêtes publiques liées à des opérations, sur lesquelles il y a de la concertation. C'est normal qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des craintes.
Il y a de la concertation, mais il n'y a pas de la participation, il n'y a pas de dialogue.
Précisez simplement...
Monique Séné et Patrice Torres, avant d'aller plus loin, pour justement être efficace dans la démonstration, je vous propose d'écouter un document sonore. On va plonger dans ce fameux labo, justement. C'est un reportage de Stéphane Combe, réalisé le 26 juillet 2008, avec comme guide Marc-Antoine Martin, donc géologue auprès de l'Andra. Allons dans ce labo et après, essayons aussi de se projeter un petit peu, c'est-à-dire avant ça, qu'est-ce qu'on faisait des déchets ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envisage ? Parce que les déchets d'avant, c'est pas réglé non plus.
Donc nous voilà dans les entrailles de la Terre. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, ça ressemble à une petite galerie de métro.
C'est ça. C'est un peu plus petit et ça serait une galerie de métro en chantier.
Ouais,
Alors venez par ici. Là, on voit la roche directement. Alors c'est une, on l'appelle une argilite, c'est-à-dire que c'est de la famille des argiles. On a de la poussière un peu partout. Cette roche nous intéresse énormément pour pouvoir y stocker des fûts de déchets radioactifs. Elle a des propriétés intrinsèques, elle a ses propres propriétés qui lui confèrent une bonne garantie pour retenir des éléments radioactifs en cas de fuite depuis ces fûts. On a vérifié en injectant des éléments radioactifs dans la roche qu'ils pouvaient être retenus dans la roche grâce à ses propriétés d'imperméabilité. Je rajoute qu'on est, d'un point de vue géologique, dans l'est du bassin parisien. C'est un bassin sédimentaire. C'est une zone très stable d'un point de vue sismique. Par exemple, on n'a aucune contrainte spécifique qui s'applique pour la construction des bâtiments en surface. Des zones comme l'Alsace, comme les Vosges, comme Nice sont des zones où là, on a des contraintes sismiques beaucoup plus fortes. Ça a fait partie des critères de choix de ce secteur géologique, c'est-à-dire sa stabilité sismique ici est avérée.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, donc concrètement, on parle de Bure, on parle du CIGEO, le Centre industriel de stockage géologique pour des déchets qui conserveront une radioactivité pendant environ 100 000 ans.
Ça peut être beaucoup plus.
Je voudrais savoir d'où on part, c'est-à-dire avant Bure, comment faisait-on avec ces déchets-là? Si j'ai bien compris, pendant des années, on les mettait dans des fûts et dans des fosses marines. C'est ce qui était fait au large de la Hague ou pas?
Il était interdit justement de mettre des déchets très hautement actifs.
D'accord.
C'était effectivement des déchets de faible activité. Alors probablement, il y a peut-être eu des dégâts parce que
la plupart des déchets, ça a été fait comme ça.
Hein. Okay. Et maintenant, c'est complètement interdit de faire ça parce que
évidemment. De 72 ou 73.
Mais la France a été précurseur sur le stockage à terre et la gestion de ces déchets, mais on ne parle pas des déchets de haute activité, mais depuis 1969 jusqu'à 1994, effectivement, les déchets, après deux campagnes d'immersion, ont été stockés à terre, mais il ne faut pas mélanger les choses. On parle des déchets qui sont aujourd'hui stockés sur le centre, dont nous avons parlé précédemment, sur le centre de l'Aube, et puis pas des déchets les plus radioactifs, qui sont ceux destinés à rejoindre le centre de stockage géologique, s'il est autorisé.
D'accord. Francis Sorin.
Moi, je remonte à 1991. Il y a une loi, la loi Bataille, qui va organiser pendant 15 ans les recherches sur ce qu'on appelle les déchets à vie longue, disons les déchets les plus dangereux, comme disait Monsieur Torres. Une loi qui, pendant 15 ans, organise ces recherches, qui indique dans quels axes on doit rechercher, est-ce que on doit entreposer ces déchets, est-ce qu'on doit les stocker en profondeur à moins 400 ou 500 mètres, etc. Et cette loi Bataille de 1991 fixe un rendez-vous au Parlement en 2006. Ce rendez-vous au Parlement, il a été tenu et avant ce rendez-vous, il y a eu un débat en 2005. Le Parlement a choisi pour les déchets les plus dangereux, l'option du stockage géologique. C'est-à-dire que ces déchets, on les met dans une couche géologique à moins 400, moins 500 mètres. Il y a eu ensuite, en 2013, un autre débat qui n'a pas marché tout simplement parce que les opposants au projet ont boycotté et on peut le dire un peu saboté toutes les réunions publiques. Donc le débat, il s'est fait sur Internet.
Voilà, et la forme
il
débat,
a assez bien marché
la
finalement.
La forme du débat, les réunions publiques, n'a effectivement pas fonctionné. Et quand vous parliez de démocratie et d'interroger les gens et autres, typiquement, ça a quand même été un exercice qui est un rendez-vous manqué parce qu'il y a beaucoup de gens, en particulier les gens qui habitent sur le territoire, qui auraient voulu s'exprimer, qui n'ont pas pu le faire. Donc ce débat-là, s'il n'a pas eu lieu, clairement, c'est pas ni la faute de ceux qui l'ont organisé, ni la faute de l'ANDRA, ni la faute des producteurs
de
déchets.
Je ne défendrai jamais personne.
Monique,
parce qu'on n'a pas pu débattre.
Mais je dis, la démocratie, c'est quelque chose qui s'apprend. Et en particulier, le gros problème de la participation, la concertation et le dialogue, c'est savoir écouter, savoir entendre et savoir répondre.
Et bien, on se rejoint.
Et c'est pas ce qu'on fait
et précisons
en général.
Également, et je pense que
Francis
que Mme Lepage,
termine,
simplement juste une phrase. Il y a eu une conférence citoyenne qui a été mise en place et que Mme Lepage connaît très bien pour contribuer à ce débat public. Et ça, c'était un exercice extrêmement positif dont on a ressorti justement des choses très intéressantes qui ont permis à l'ANDRA de réorienter le projet sur certains aspects et en particulier sur la mise en place d'une phase pilote au début d'une phase d'exploitation si le centre est autorisé. Donc, On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Simplement, les réunions publiques, au sens où on l'entend, n'ont pas pu se tenir parce que des opposants ont empêché les uns les autres. Mais le débat a quand même eu, voilà, la conférence citoyenne était un moment important de ce débat, comme les échanges sur Internet étaient, mine de rien, très positifs également.
Francis Sorin.
Après ce débat qui a été effectivement couronné, si on peut dire, par cette conférence citoyenne, le Parlement s'est saisi à nouveau de la question et le Sénat a voté et ensuite l'Assemblée nationale ont voté en 2016, il y a quelques mois, la poursuite des travaux conduits par l'ANDRA à Bure pour le stockage géologique. Donc, si on jette un regard avec un peu de recul sur tout ce processus, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment des débats, des concertations. Alors, tout le monde a pu s'exprimer. Le Parlement s'est exprimé. Je pense qu'il faut honnêtement le reconnaître.
Pas, le Parlement, pardonnez-moi, c'est pas Corinne forcément Lepage. La population locale. Deuxièmement, les gens ont demandé un référendum sur place. On leur a refusé. Pourtant, ils avaient le pourcentage de voix qu'il fallait pour obtenir ce référendum. Ils n'y ont pas eu le droit. Ça, c'était en 2004 ou 2005, enfin par là. Ça fait une dizaine
c'était
d'années.
Avant la loi.
Ensuite, c'était avant la loi, mais quand même, c'est resté en travers de la gorge d'un certain nombre de gens. Ensuite, moi, je veux bien qu'on dise que le Parlement a décidé, parce que c'est vrai, c'est la vérité, mais il n'avait pas tellement le choix. Parce qu'en réalité, les études sur le stockage en subsurface, moi je voudrais qu'on me dise quel est le nombre de millions qu'on a mis sur les études en subsurface, on a mis 3 francs 6 sous, tout le choix a été fait sur Bure, enfin sur CIGEO. C'était ça le choix de l'industrie nucléaire, et c'est ça qui a été fait, et le choix n'était pas de travailler sur la solution numéro 2.
Madame, je précise quand même par rapport au montant.
Attendez,
Monique Séné, rapidement,
la concertation, le débat, etc. Le Haut Comité à la transparence est actuellement saisi pour justement essayer de faire la lumière sur tout ça. Alors, on l'avait déjà fait la première fois sur les FAVL, on avait regardé comment on avait informé les gens et comment ils avaient pris le sujet. Et alors cette fois-ci, on regarde justement, on va regarder tout ce qui est sur la table et comment c'est transmis vers la population et comment ils peuvent s'informer.
Vis-à-vis du montant des investissements qui ont été faits pour l'une ou l'autre des pistes. Je voulais simplement préciser que quand on étudie ce qui est très important et nécessaire, quelle que soit la solution de gestion définitive, le déchet lui-même, ses caractéristiques, son traitement, de toute manière, c'est nécessaire et ces millions investis pour caractériser ces déchets, pour mieux les étudier, étaient nécessaires, quelle que soit la piste. Ensuite, bon, très bien. Ensuite, il est évident que quand vous construisez un laboratoire à moins 500 mètres sous terre, ou quand vous imaginez un bâtiment en surface, comme on en a déjà construit à La Hague ou ailleurs, vous n'avez pas besoin d'investir les mêmes montants en euros et en heures d'ingénieurs et de scientifiques pour arriver à des résultats. Et dernier point qu'il ne faut pas omettre également, quand on parle de participation, de concertation, de débat ou autre, n'oublions pas aussi la notion de réversibilité.
On en parlera dans un instant, si vous voulez, Patrice Torres. À ce stade de l'émission, on marque une pause. On reprend dans un instant le débat. Opinion publique, opacité, réversibilité.
Serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large, oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur, enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'était Pourquoi pas, Mathieu Bogart, suite de notre débat sur France Culture, la gestion des déchets nucléaires. Nous sommes en compagnie de quatre invités, l'avocate Corinne Lepage, présidente du Parti écologiste Cap 21, la physicienne Monique Senet, présidente du groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, Patrice Torres, directeur des opérations industrielles de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dite l'ANDRA, et Francis Saurin, conseiller de la Société française d'énergie nucléaire. Tout de suite, petit retour en arrière, léger. C'était il y a un an, le 4 août 2015. Reportage d'Aurélien Colli.
Mélange des genres, mélange des âges, mais convergence des luttes pour les 500 militants rassemblés dans ce camp où l'autogestion est le maître mot. Bure, Notre-Dame-des-Landes, Sivens, même combat pour Alix qui a la trentaine.
C'est important de se réapproprier un peu à un moment donné toutes ces décisions qui sont prises sans nous. C'est-à-dire quand nous on va voter, on élit des personnes, mais c'est parce que ces personnes sont élues qu'à un moment donné on n'a plus notre mot à dire sur les décisions qui sont prises et avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est d'autant plus grave que ça touche au nucléaire.
Déni de démocratie aussi pour Jean, la soixantaine. L'enfouissement à Bure, lui, il s'y oppose depuis 20 ans. 20 ans et toujours la même opacité des pouvoirs publics.
Tout simplement, on fait un trou, on va fermer tout ça, ça sera du radioactif. Et quand on écoute même des spécialistes, eh ben, ils sont plutôt, on croit, on espère que. Mais moi, je n'appelle pas tellement ça la scientifique. On s'aperçoit que les concertations des populations n'existent pas.
Pour être honnête, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'opinion publique n'est pas clairement favorable au nucléaire d'une manière générale ? On n'est pas là pour poser, c'est le débat sur les déchets nucléaires, on ne va pas entrer dans toute la question oui ou non nucléaire, mais en même temps, ces déchets nucléaires, ils posent aussi cette question-là, c'est-à-dire là, on les gère pour un avenir, pour un devenir, et donc cette population, ces populations, puisque à l'échelle mondiale, on voit qu'il y a quand même aussi ce recul du nucléaire, est-ce qu'il n'y a pas là une opinion publique peut-être à écouter plus largement ?
Ah, moi je suis certaine qu'il y a à discuter vraiment avec les gens et écouter ce qu'ils nous demandent, parce que effectivement, c'est pas si simple de faire comprendre. Qu'est-ce que c'est que des déchets ? Vous savez bien que même avec des déchets ménagers, on a des problèmes.
Oui, les perturbateurs endocriniens sera un de nos sujets dans les prochaines semaines.
Il faut prendre ce domaine et vraiment discuter avec les gens et expliquer ce qu'on fait, etc. Et surtout, il faut effectivement écouter le local parce qu'il a des choses à vous apprendre. Donc, ils font partie du décor.
Corinne Lepage, c'est vrai que la crainte pour beaucoup, c'est quand même que CIGEO soit une sorte de blanc-seing pour persévérer dans le nucléaire. Il y a ça quand même aussi.
Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que la France est un pays, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, où on n'a jamais demandé aux gens nationalement leur avis. On peut être d'accord, pas d'accord, mais le fait est, les lois, ça a été pas des référendums.
On peut dire que ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Et la loi, elle est devenue très tard. La première loi elle date de 1991. Ça veut dire qu'on a fait tout un programme électronucléaire sans même demander au législateur ce qu'il en pensait. Alors le public pensait donc. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut être clair. Qu'on sorte ou qu'on sorte pas du nucléaire, on est collé avec les déchets qu'on a fabriqués. Donc déjà, de toute façon, il faut en faire quelque chose. La poursuite du nucléaire impacte la quantité.
Bon. Voilà.
Et c'est notamment une réflexion que les Allemands mènent actuellement en disant, ben, nous on va sortir, mais on a besoin de savoir combien on va avoir à en gérer pour pouvoir nous prononcer sur ce qu'on veut faire.
Et vous faites bien de parler de l'Allemagne, parce qu'un petit rappel, les Allemands consomment 25% de moins d'énergie que nous. Donc c'est vrai que si la France, qui a tout misé sur le nucléaire jusque-là, envisage une sortie du nucléaire, elle ne peut pas être non plus très rapide parce que ça exigerait de la population d'accepter de réduire la consommation d'énergie, voire de réduire son confort quand même.
La question de la quantité de déchets. Et d'ailleurs, l'ANDRA fait effectivement un inventaire avec un certain nombre de scénarios et dedans, il y a effectivement la poursuite ou pas la poursuite, mais il y a surtout qu'est-ce que ça entraîne comme déchets. Et en plus, ils ont un inventaire et avec tout ce qu'il y a comme déchets sur les sites. Ouais. Parce que là, effectivement, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on faisait avant ? Eh ben, avant, on a fait le Centre Manche, qui est un site qui ne répond pas aux normes actuelles.
Oui,
soyons précis.
Je crois qu'on en est tous
mais
d'accord.
Qui a permis de faire Soulaine. Ça, c'est vrai.
Madame Senet, aucun détriment contre l'environnement ou contre les populations
mais
de la part de ces sites.
Mais si, vous savez bien que le cas d'Arache...
Non, vous ne pouvez pas dire ça.
Mais les déchets, C'est les sites, quand même.
Oui.
Et
oui,
il y en a à Cadarache, il y en a à Marcoule, il y en a à Tricastin.
Combien de sites en France, Patrice Torres?
Des sites sur lesquels on produit des déchets radioactifs,
oui.
Il y en a plus d'une centaine en France. Des sites où on gère les déchets radioactifs,
Il y en a.
Il n'y en a que aujourd'hui trois pour les centres de stockage. Il y a les déchets TFA, donc à proximité de Soulaine. Et il y a le centre de stockage dans l'Aube, et puis le centre historique de la Manche. Pour le reste, ce sont des entreposages, ce ne sont pas des solutions définitives de gestion.
C'est des piscines dans lesquelles on met les
déchets de haute activité. Pour le reste, non. Je voulais simplement rappeler l'importance du dialogue, et en particulier avec les gens qui habitent à proximité des installations qui vont permettre à la France de gérer ses déchets radioactifs de manière sûre. Et c'est pour ça que c'est pas le débat de l'ANDRA, le pour ou le contre le nucléaire. C'est quel que soit le choix politique qui sera fait, les déchets, vous savez,
faut les gérer.
Près de 50% des déchets qui sont destinés à CIGEO, sont déjà produits. Et donc, il faudra dans tous les cas les gérer de manière sûre. Ne pas laisser aux générations qui viendront après la charge de ces déchets qu'on a produits.
Corinne Lepage.
En marge du sujet, mais quand même, vous venez de parler de sûreté, et c'est évidemment un élément clé. Sûreté, ça veut dire des sous. Nous savons tous la situation excessivement brillante d'EDF, qui n'a pas un copec aujourd'hui à mettre dans cette affaire-là. Nous savons tous le bras de fer qu'il y a entre EDF, qui est le producteur des déchets et qui va donner à l'ANDRA la responsabilité de la gestion, et qui n'a donc pas du tout la même vision de ce qu'on doit investir pour assurer la sûreté, parce que c'est plus son affaire une fois que c'est à l'ANDRA. Et là, on a...
Pardon ?
Non. C'est pas vrai. Oui. Ils en sont toujours responsables.
Ils resteront responsables.
Corinne Lepage, continue.
Il reste quand même autour de cette affaire CIGEO quelque chose d'aujourd'hui d'assez virtuel, qui est comment, de toute façon, à supposer que la décision soit prise, on va financer cette affaire-là. Alors, et comment est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour avoir la solution la plus sûre ? Ce sujet-là n'est absolument pas tranché.
Alors, pour autant, il y a quand même des dispositifs. Alors, il y a effectivement un débat sur le coût. C'est pas EDF qui prendra la décision. C'est les propositions de l'ANDRA se doivent d'être pour un objet qui sera sûr, et surtout, c'est l'autorité de sûreté nucléaire et son bras armé, l'IRSN, avec d'autres évaluateurs, y compris des évaluateurs internationaux, qui viendront juger de la sûreté. Donc c'est clairement pas EDF.
Francis Sorin.
Il y a une évaluation de la Cour des comptes concernant le coût de la gestion des déchets, évalué entre 1% et 2% du coût de fabrication du kilowattheure nucléaire. À partir de ce moment-là, on peut, je dirais, voir avec une certaine
sérénité,
tranquillité,
non,
les prochaines années, quand vous mesurez que les chiffres qui ont été avancés du coût de CIGEO sont des chiffres qui portent sur un siècle, sur 100 ans.
C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas.
Et que les coûts annuels sur les 100 ans sont tout à fait dans les cordes et à la portée d'organismes comme EDF, qui sera le principal payeur de ces déchets, parce que c'est le principal producteur, d'Areva du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
L'avenir le dira, la situation d'EDF n'est pas si évidente.
Ce que je voudrais ajouter, on parlait tout à l'heure des déchets et de l'opinion. Il est très intéressant de voir que quand on fait des enquêtes auprès des gens sur le nucléaire, ils disent que finalement il y a un problème qui les empêche vraiment d'avoir un jugement positif sur le nucléaire, c'est le problème des déchets. Alors c'est vrai, c'est vrai.
Ce qu'on laisse aux générations futures quand même,
comme
c'est cette
question-là. Comme dit le sociologue Philippe Biribarne, qui avait fait une enquête sur la représentation qu'ont les Français des déchets nucléaires, il dit que cette représentation, elle est sous trois signatures. Un risque infini, un volume infini et une durée infinie. C'est dire si ces représentations sont vraiment, à mon avis, complètement hors des réalités scientifiques et techniques du dossier.
Mais c'est aussi surtout dire qu'on a besoin justement de dialogue, de débat, d'explications et de se tourner vers justement nos concitoyens. Et c'est ce sur quoi il faut s'appuyer pour expliquer et faire accepter.
Monique Sonnet, rapidement.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Tous les programmes nucléaires ont dépassé les budgets. Pour l'excellente raison...
c'était 3 milliards, on est à 10 quand même.
Il se passe à certains moments quelque chose qui est plus difficile à réaliser. Je n'ai pas dit qu'on faisait rien, c'est pas ça.
Bien sûr.
Mais plus difficile, et à ce moment-là... Ça. Et quand on parle justement de l'argent qui est mis de côté, il y avait une commission qui devait s'en occuper. Or, cette commission, elle n'a pas pu s'en occuper, parce que d'abord, elle n'a pas de moyens. Elle a tout reversé vers la Cour des comptes, parce que, effectivement, elle nous a fait un exposé au niveau du Haut Comité qui était très bien et qui montrait justement la difficulté et le fait que, eh ben, les réserves, elles n'étaient pas là.
Madame, c'est simplement, oui, pour compléter sur un point, je pense que derrière les propos, quand on dit c'est 1 à 2% du coût de l'électricité, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un débat si essentiel que ça, si on parle de 25 milliards, 30 milliards, 35 milliards, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faudra mettre, c'est ce que ça coûtera pour que ce soit sûr. Et s'il doit coûter, le moment venu, 100 ans, on n'y sera plus exactement, s'il doit coûter un peu plus cher ou un peu moins cher, parce qu'il y aura aussi des améliorations techniques ou autres, ben ce sera le cas. Mais ce qui compte avant tout, c'est que notre génération puisse mettre l'investissement nécessaire à produire une solution de gestion sûre pour les générations d'aujourd'hui et surtout pour celles de demain.
Faut qu'elle
et c'est la mission de l'établissement public qu'est l'ANDRA. Et on n'aura pas parlé de réversibilité.
On va en parler une minute, vraiment une minute. C'est pour ça que j'essaie de vous arrêter les uns les autres voilà, sur cette question-là. La sûreté, on aura compris. Est-ce que l'argile sera vraiment la solution la plus sûre? Je pense que l'avenir le dira.
C'est en 2156.
Voilà, en sachant que bon, pour certains
on tire quand même des chèques sur l'avenir. C'est absolument incroyable.
Patrice Torres, la réversibilité, allons-y. 2 minutes.
Oui. Donc très rapidement, là où on se rejoint aussi, c'est sur la nécessité de laisser aux générations futures de modifier les choix qui sont faits aujourd'hui. Oui. C'est aussi ça la démocratie. Et la notion de réversibilité sur ce projet, elle a deux aspects. Un aspect très technique qu'on pourrait caricaturer par de la récupérabilité, la possibilité d'aller ressortir les colis de déchets qui seront mis, mais pas uniquement. C'est également un volet sociétal, un volet politique qui fixe que à échéance régulière, ces décisions-là devront repasser devant les élus du peuple et devront être redébattues.
Repasser devant le pays.
Et rediscutées.
Pas seulement, les élus.
C'est pour ça que j'ai dit débattues, pour que soit les choix soient confirmés, mais même quand on dit ça, on va laisser quand même
mais
aussi le soin.
Ils peuvent ne pas être confirmés, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir appliquer les nouveaux.
D'où la réversibilité. Mais ce que je voulais simplement préciser aussi, c'est qu'on va peut-être laisser aux générations d'après le choix du modèle d'échange qu'ils voudront avoir. Donc c'est important aussi simplement qu'on puisse y revenir sans tout fixer, mais que la loi prévoit et que ce projet intègre cette notion de réversibilité qui là aussi
mais
est une avancée.
Que ce soit sur le papier, il faut que ce soit réellement possible.
Bien
ça,
sûr.
Eh ben oui, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et la réversibilité,
ce n'est pas simple.
Dans l'acception récupérabilité dont vous venez de parler, c'est précisément les citoyens qui l'ont demandé dans la conférence de consensus. C'est là où c'est venu.
Madame Lepage, on se rejoint sur le fait qu'il y a un grand intérêt, je le dis depuis le début de l'émission, à discuter, à échanger, à débattre avec les citoyens, les politiques, avec toutes les parties prenantes.
Ce qu'il faut dire
c'est
aussi,
essentiel
c'est que
sur ce type
l'urgence,
de projet
il n'y a pas d'urgence sur cette affaire-là.
C'est bien, vous êtes d'accord.
Il n'y a pas d'urgence.
Mais sur de nombreux points.
Je suis d'accord, mais c'est ce que
c'est
je dis. Il faut reprendre, et ça c'est ce que fait le Haut Comité, savoir ce que c'est qu'un dialogue, une concertation.
Oui. Alors, le mot de la fin de cette première partie à chacun. Je me tourne vers vous, en tout cas, parce qu'il y a un petit peu ce rituel d'émission. On vous demande aux uns aux autres si vous avez une phrase, soit empruntée à quelqu'un, ou que vous faites vôtre, en tout cas. Un petit peu à l'image de celle de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je trouve que ça, elle va très bien, d'ailleurs, dans ce débat-là. Est-ce que, voilà, les uns les autres, vous avez eu ce... Monique Sonnet.
Oui, oui. Le nucléaire nous aura apporté 40 ans de joie. Et puis, il va nous avoir une infinité de problèmes, au moins pour plusieurs siècles.
Corinne Lepage.
Moi, c'est une citation. C'est une citation d'Einstein qui dit « Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité ». Je pense que c'est très juste.
Et ça fait réfléchir. Messieurs, Francis Thorin.
Moi, c'est trois vers de José Maria de Heredia, d'un poème qui s'appelle « Les conquérants ». Où, penché à l'avant des blanches caravelles, il regardait monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Je trouve que c'est une allégorie superbement exprimée du défricheur, de l'inventeur, de celui qui essaye de regarder l'avenir et d'inventer.
Patrice Torres, donc vous, peut-être une phrase sur le dialogue.
Alors, j'en ai suffisamment parlé peut-être du dialogue aujourd'hui, donc non. Ça sera une phrase de quelqu'un qui était pour autant pas particulièrement pro-nucléaire, mais de Jean Rostand, qui disait « Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas faire.
Merci à tous les quatre pour cette participation à notre première partie d'émission. Vous pouvez rester avec nous pour la suite, bien sûr. Je rappelle vos livres, Corinne Lepage, L'Atlas mondial du nucléaire, paru chez Autrement, et L'État nucléaire chez Albin Michel. Il y en a d'autres sur notre site. Monique Senet, co-auteur du livre Les dossiers noirs du nucléaire français aux presses de la Cité. Francis Sorin, je cite votre dernier livre, Déchets nucléaires, où est le problème, paru chez EDP Sciences 2015. Et puis, oui, restez avec nous parce que la suite, pollution lumineuse, ça va forcément vous intéresser.
De jour, le marquage du verre est un bon moyen pour éviter aux oiseaux de se fracasser contre les immeubles. Mais la nuit venue, les bâtiments se transforment en dangereux pièges lumineux. La lumière est une autre cause majeure du déclin des passereaux. La pollution lumineuse engendrée par l'éclairage nocturne est un problème mondial. Pour les oiseaux qui migrent de nuit, il a pris une dimension dramatique.
Nous sommes en pleine saison migratoire à New York. À l'occasion de la soirée de commémoration du 11 septembre, deux faisceaux lumineux traversent le ciel. Cette lumière est si puissante que cela perturbe les oiseaux. Pour certains, ça peut être fatal. Il y a deux oiseaux tout en haut des faisceaux. Un passereau de taille moyenne, probablement une grive. Si beaucoup d'oiseaux restent dans cette zone et se rapprochent trop des faisceaux, nous avons l'autorisation d'éteindre les lumières.
Seconde partie, les échos de la Terre et cette question posée aujourd'hui. Les pollutions lumineuses ont-elles des conséquences sur le monde animal? Une question qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec la 8e édition du Jour de la Nuit qui aura lieu le 8 octobre prochain. Et l'extrait du film que vous venez d'entendre, c'est le film donc Le silence des oiseaux, un documentaire diffusé sur Arte en 2015 qui était très parlant, très éclairant sur ces questions-là justement. Bonjour Philippe Ciblet.
Bonjour.
Vous êtes directeur du service patrimoine naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Vous participez à l'inventaire de la biodiversité. Vous avez beaucoup d'activités, en tout cas concernant toutes ces questions autour de la pollution, les pollutions lumineuses et puis les oiseaux notamment. Alors, les pollutions lumineuses, dites-nous, c'est quoi concrètement ?
Alors la pollution lumineuse, en fait, c'est un phénomène qui est connu anciennement parce que ça fait très longtemps que l'homme utilise la lumière pour des choses bénéfiques ou pas. Hein. Par exemple, utiliser le lampareau pour pêcher, mais aussi pour des activités type attirer les bateaux sur les côtes pour les faire échouer et récupérer leur cargaison. Mmh. Plus récemment, disons dans les années 50-60, ce sont les astronomes qui ont les premiers lancé le cri d'alarme parce que la lumière des villes les empêchait d'observer les astres, d'où des gros problèmes d'installation de leurs télescopes dans des endroits où la pollution était faible. Et puis même dans des endroits très reculés, on s'est rendu compte que cette pollution était présente. Et puis ce n'est que plus récemment, je dirais, il y a à peu près une vingtaine d'années, qu'on s'est rendu compte que cette pollution, cumulée avec d'autres phénomènes, posait des tas de soucis pour la faune et pour la flore. Alors, les exemples sont très nombreux. Celui qu'on connaît le plus, et notamment qui a été mis en évidence par les ornithologues il y a fort longtemps, c'est l'impact des phares lors de la migration des oiseaux. En période de brouillard ou lorsque les étoiles ne sont pas visibles, les oiseaux sont attirés par les rayons des phares et viennent se fracasser par centaines sur donc les vitres et sur le flux des phares.
Parce que ces oiseaux migrateurs s'orientent vraiment à l'aide des étoiles, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs... C'est un phénomène complexe, il mériterait une émission à elle seule.
On la fera.
Mais oui, il y a beaucoup d'oiseaux utilisent les étoiles comme moyen pour se repérer, en association avec d'autres phénomènes, comme par exemple le magnétisme de la planète et d'autres phénomènes qu'on commence à peine d'ailleurs à comprendre, mais qui, en termes de biomimétisme, sont captivants parce que ouvrent des voies potentielles de développement qui pourrait être très intéressant pour l'homme. Alors, au-delà des oiseaux, on s'est aussi rendu compte que beaucoup d'autres organismes étaient concernés par cette pollution. Il y a un cas qui est très connu, c'est le cas des tortues marines, donc qui viennent pondre sur les plages, et le littoral étant de plus en plus éclairé, eh bien les tortues ont du mal à retrouver leur chemin pour retourner à la mer, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un instinct, ils se repèrent, et ils se repèrent notamment sur le scintillement des vagues avec la lune, ou en tout cas avec l'éclairage ambiant qui ne fait jamais nuit noire. Et donc lorsqu'on éclaire le littoral, eh bien les tortues ont du mal à retrouver leur chemin et peuvent être condamnées, parce que évidemment si elles mettent trop longtemps à trouver leur chemin, eh bien elles meurent de soif et puis par le soleil. Et puis il y a également le problème des jeunes tortues qui, quand elles éclosent, se font attraper par les prédateurs si elles mettent trop de temps pour regagner le littoral.
Et alors des conséquences aussi sur justement la reproduction peut-être?
Absolument, des conséquences sur la reproduction. On a constaté par exemple chez des batraciens que l'éclairage pouvait conditionner le champ des mâles et donc affaiblir ce champ et donc toucher à la reproduction. On sait aussi maintenant par exemple qu'il y a des conséquences sur les rapports entre les proies et les prédateurs. Certaines proies deviennent beaucoup plus facilement accessibles et donc sont donc par conséquent beaucoup plus touchées en effectif. Et puis par ailleurs, certains prédateurs, au lieu de vaquer à leurs autres fonctions vitales, passent beaucoup trop de temps à capturer leurs proies. Par exemple, les chauves-souris qui tournent autour des réverbères pour capturer des insectes, on pourrait dire bah, tout va bien, elles ont le gîte et puis le couvert maintenant. Mais sauf que le problème, c'est qu'elles passent beaucoup trop de temps à tourner autour des réverbères au détriment de la reproduction et de l'élevage de leurs jeunes. Et puis, par ailleurs, la prédation supplémentaire sur les insectes peut avoir des conséquences. Alors bien sûr que dans le monde des invertébrés, on est sur des effectifs qui sont tout à fait considérables et que peut-être cette prédation est infime par rapport au volume. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive toujours à la fin des choses. Vous connaissez l'adage de la mer et ses poissons. Qui un jour pouvait penser qu'on aurait des quotas de pêche sur les poissons? Personne. Et qui demain peut dire que telle ou telle espèce d'insecte finalement ne va pas devenir menacée si on ne prend pas garde à un certain nombre de problèmes? Et un point aussi qui est important à dire, c'est que la pollution lumineuse, c'est quelque chose qui vient en cumul. C'est-à-dire c'est déjà nuisant en soi, mais ça vient en cumul d'autres choses. Ça vient en cumul d'un urbanisme qui n'est pas forcément maîtrisé.
Oui.
Par exemple, l'urbanisme vert, béton, acier est très problématique. Donc, on l'a entendu dans le petit extrait là, sur le silence des oiseaux. On voit bien ce que ça peut occasionner, l'éclairage de tours de verre et d'acier. Et aux États-Unis, ça a particulièrement été mis en évidence. Ce sont des millions d'oiseaux. On n'est pas sur des centaines, on n'est pas sur des milliers, on n'est pas sur des dizaines de milliers ni des centaines de milliers. On est sur des centaines de milliers d'oiseaux. Si vous cumulez ça avec tous les autres problèmes qu'on peut connaître, la disparition des habitats, la pollution, et puis par exemple d'autres phénomènes dont on parle peu mais qui sont tout aussi importants, la prédation par les chats, qui est là aussi a été chiffrée en Angleterre par exemple, c'est des dizaines de millions d'oiseaux. Voilà. Si on rapporte ça aux effectifs, je veux juste vous donner un élément de réflexion. Aujourd'hui, l'Atlas des oiseaux nicheurs de France est sorti l'année dernière et il a déterminé qu'il y avait environ 3 oiseaux nicheurs par Français. Vous allez me dire comment vous le savez, ben, on le sait parce qu'il y a des comptages, etc. Je dirais que même si on s'est trompé, du simple au double, même si c'est 6, on comprend bien qu'on est sur des effectifs extrêmement faibles et on comprend bien que par rapport à ces effectifs, l'homme est de très très loin l'espèce qui domine en France et sur la planète. Donc, faisons très, très...
Donc, l'alerte est lancée. L'alerte est lancée. Cette semaine, on a reçu du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris cette information. Le déclin des oiseaux nicheurs se poursuit en France. Un tiers des espèces aujourd'hui menacées. C'est vrai que quand on voit ces villes illuminées, c'est 11 millions de points lumineux en France. Hein, c'est ce que j'ai lu. Hein, selon Agir pour l'environnement, l'éclairage public mondial représenterait d'ailleurs 6% des émissions de gaz à effet de serre. On pense d'emblée au gaspillage plutôt de cette énergie avant de se dire que finalement ça a des conséquences vraiment, vous dites même irréversibles, en tout cas graves,
en tout
des
cas,
conséquences
graves
sur la biodiversité.
Alors si on peut essayer d'avoir un message d'espoir quand même, c'est de se dire que la pollution lumineuse est une des rares pollutions sur laquelle on peut intervenir de façon rapide et peu coûteuse. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'éteindre.
Oui, il y a des solutions, c'est
sûr. Il suffit d'éteindre. En fait, l'idée n'est pas d'éteindre tout, partout, de façon inconsidérée. L'idée, c'est d'éclairer moins et d'éclairer mieux. Par exemple, un bâtiment, un monument historique, on peut tout à fait l'éclairer. Personne n'envisage d'éteindre la Tour Eiffel ou la Notre-Dame. Par contre, une belle église dans un petit village de 500 habitants, on peut imaginer de l'éclairer jusqu'à 10h du soir, voire 11h. Mais ensuite, qui est là pour voir l'éclairage à 2h ou 3h du matin ? Voilà un exemple de gain positif. On peut aussi utiliser des technologies beaucoup moins nuisantes. On sait aujourd'hui qu'il y a des technologies plus nuisantes que d'autres. Alors, il y a un effet de mode avec les LED. Je veux juste donner un message d'alarme. Les LED, c'est pas forcément la solution ou la panacée à toutes les questions. Il faut être prudent. C'est un sujet qui est très complexe, qui mériterait d'être évoqué par quelqu'un d'un paranorme de l'art. Et à ce titre-là, je voudrais quand même saluer le travail tout à fait remarquable de l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui font un énorme boulot là-dessus et qui sont les spécialistes et qui, si vous allez sur leur site, vous pourrez avoir tout un tas d'informations de ce type-là. Mais en tout cas, on sait faire. Enfin, potentiellement, on peut faire. Et y a d'ores et déjà des communes qui se sont engagées résolument dans une diminution de l'éclairage, voire éventuellement dans l'extinction de la lumière dans certains territoires et à certaines périodes. Et je pense que c'est réellement quelque chose qui est tout à fait positif.
Et oui, vous les citez d'ailleurs dans ce rapport, un impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité, synthèse biographique, en tout cas un document du service du patrimoine nature auquel vous avez participé. Vous parlez de villes au Canada, en Italie, en Suisse. Et puis, vous nous interpellez aussi sur le fait que, mais par exemple, c'est vrai, on ne s'en doute pas, je lis cette phrase dans votre rapport. Dans d'autres cas, par exemple, des grenouilles placées dans un enclos à proximité d'un stade de football stoppent toute activité de reproduction lorsque ce dernier est éclairé. Et c'est vrai que quand on lit certaines des phrases au fil du rapport, ça nous interpelle quand même grandement, nous, dans notre activité au quotidien, et notamment, par exemple, les plantes aussi. Elles utilisent l'obscurité de différentes façons. Elles conditionnent le fonctionnement de leur métabolisme et de leur développement avec aussi ça, c'est-à-dire le jour et la nuit. Et donc, ça veut dire que les jolies petites lampes que l'on met dans les jardins pour notre agrément ne sont pas bonnes du tout pour les plantes.
Absolument. Alors juste pour rebondir sur l'exemple des stades, et là aussi pour avoir une note positive, il y a encore une dizaine d'années, personne n'aurait imaginé dans un dossier d'étude d'impact pour un stade, et Dieu sait qu'il y a eu récemment 3 ou 4 grands stades qui auraient été construits en France, de voir cette question de pollution lumineuse. Et je siège au Conseil national de protection de la nature, et cette question a été évoquée par les maîtres d'ouvrage, donc c'est quand même plutôt positif parce qu'on commence à prendre ce problème au sérieux, alors qu'avant c'était un peu considéré comme une toccade d'écolo arriéré.
Eh bien merci Jean-Philippe Ciblé pour tous ces éléments, ces informations. On va effectivement voir la lumière autrement. L'inventaire national du patrimoine naturel, c'est une bonne source. On peut renvoyer sur mnhn.inpn.fr. Et bien sûr, toutes les informations, les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, y découvrir les compléments, les plus et les moins d'Anaï Morales, nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet. Et la semaine prochaine, nous vous proposons une émission sur les migrants du climat. Débat qui sera enregistré vendredi prochain à Blois, à l'occasion des Rencontres de l'Histoire, en public, vendredi à 10h30. Vous pouvez bien sûr venir assister à l'enregistrement qui aura lieu à l'auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire. Nous serons notamment en compagnie de François Jemaine et de Annelise Depoux et du photographe Émeric Luissé pour ce débat sur migrants du climat. Et je profite aussi de l'occasion pour vous signaler le Festival du livre de Mouance Sartou, dont France Culture est partenaire. Il aura lieu du 7 au 9 octobre prochain. Et nous serons justement le 9 octobre sur place pour des débats, notamment un débat sur manger bio, c'est bon pour la santé. Et puis pour évoquer aussi le dernier film de Marie-Monique Robin, Qu'est-ce qu'on attend ? Et merci de nous avoir suivis, merci à la fine équipe qui m'accompagne, Catherine Donnet, incontestable pilier de l'émission qui me supporte depuis des années, Anaï Morales, la petite fourmi des archives et des illustrations sonores, et puis je n'oublie pas les deux autres talents, aussi Caroline Chausset de la documentation sonore de Radio France, Anne Gouzon de la documentation de Radio France, et dont vous pouvez retrouver la revue de Web Environnement sur le site de l'émission, à la réalisation, comme toujours, Alexandra Malka, à la technique Cédric Châtelus, et dans un instant, à 17h, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Rue des Écoles et Louise Touré.